Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le Bitcoin est-il une monnaie comme les autres ? Le Bitcoin est une monnaie virtuelle qui circule sur Internet.
Je me sens toujours tout seul.
Il remplit les mêmes fonctions qu'une monnaie traditionnelle. Il représente une unité de compte, c'est-à-dire qu'il permet de mesurer la valeur d'un bien ou d'un service.
Money.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Money.
De l'argent, on a l'habitude souvent de payer avec une carte bancaire, avec de la monnaie, même avec des chèques. Et bien là, il va falloir s'habituer à une nouvelle manière de payer. Par Internet. Alors là, je vous vois arriver et me dire « Oh là là, mais c'est dangereux, mais comment ça marche? On va me voler mon argent, j'y comprends rien. » Nous sommes là, les curieux, et on a le spécialiste de la question, c'est le journaliste du Parisien Magazine Aujourd'hui en France, Stéphane Loignon. On parlait donc de cette blockchain qui est une sorte de technologie qui permet de justement de s'échanger de la monnaie. Et comme exemple, pour rendre un peu les choses concrètes, on a pris cette monnaie qui est le Bitcoin. C'est en fait une monnaie numérique, c'est la monnaie numérique la plus connue, c'est ça ?
Voilà, en fait, c'est la première monnaie numérique qu'on appelle pair à pair, c'est-à-dire sans intermédiaire. Avant, il y avait déjà des monnaies numériques qui pouvaient être créées par des, peut-être par des banques ou par quelqu'un qui allait contrôler la monnaie. Pour la première fois avec le Bitcoin, on a une monnaie qui est contrôlée par tous ses utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on l'appelle pair à pair. Et c'est ça qui fait le côté très innovant de cette technologie.
Elle a été créée quand, cette monnaie ?
Alors, elle a été créée fin 2008.
Par qui ?
Par quelqu'un qui est resté anonyme, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, mais c'est un pseudonyme plutôt.
Ouais. Il est quand même japonais ou
on
coréen ?
On ne sait absolument pas qui c'est, et ça peut tout à fait être quelqu'un qui n'est pas
un
du
breton.
Tout japonais. Peut-être que c'est un breton.
Un genre obique.
Ouais. Mais cette personne a créé en même temps la blockchain et la monnaie qui va avec.
Voilà,
Bitcoin.
En fait, cette personne a créé le Bitcoin, donc lui définit assez simplement comme du cash électronique, voilà, et qui fonctionne grâce à un registre de transactions qu'on appelle la blockchain.
Est-ce que ça a marché tout de suite, ça, le Bitcoin ? Est-ce que les gens sont mis rapidement, dès 2008, à l'utiliser ?
Alors, ça a marché techniquement tout de suite, c'est-à-dire sans trop de problèmes, mais d'abord auprès d'un cercle assez restreint d'utilisateurs, plutôt des gens qui étaient des spécialistes de la cryptographie, un cercle assez restreint de gens.
Mais pourquoi la cryptographie ? C'est une crypto-monnaie, le Bitcoin ?
Alors, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, voilà, parce qu'en fait, les échanges sont sécurisés par des techniques de cryptographie, c'est-à-dire qui permettent de coder et d'anonymiser en ligne les transactions qui sont faites.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous racontez qu'en fait, cet échange, il est fait. Donc, il n'y a pas de banquier, ça on a compris. On fait la tête à notre banquier, ça ne doit pas d'ailleurs trop leur plaire aux banquiers. Mais cet échange, il doit se faire quand même devant des témoins, en quelque sorte. Ces témoins sont qui sur Internet ? Des gens comme ça qui surfent sur le web ?
Voilà, alors donc ça, c'est le grand côté innovant de cette technologie-là, c'est que tout le monde peut consulter toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain, ou par exemple sur la blockchain du Bitcoin, la plus connue. Donc, vous et moi, on peut aller sur un site, par exemple, qui s'appelle blockchain.info et regarder en direct toutes les transactions ou une transaction en particulier faite par n'importe qui. Simplement,
qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, on voit en fait des suites de chiffres et de lettres qui sont les pseudonymes des gens qui échangent, parce qu'on n'échange pas sous son nom, on échange sous un pseudonyme d'à peu près 25 chiffres et lettres mélangés.
Genre Bugs Bunny 342 ?
Non, c'est plutôt genre 1, 2, 4, X, Z, etc. Des choses beaucoup moins fun. et voilà, vous pouvez cliquer sur cette adresse et puis voir toutes les transactions qu'a faites cette personne, mais qu'on ne connaît pas.
Oui, mais alors on n'y comprend rien, parce qu'on voit des chiffres, on voit des sommes, mais on ne sait pas qui a dépensé quoi, ni pourquoi.
Non, mais ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, en ayant la possibilité de consulter toutes les transactions, on a la certitude que, par exemple, quand je dépense un bitcoin et que je vous le donne, ce bitcoin ensuite est bien débité de mon compte et ajouté à votre compte et que je n'en garde pas une copie. Ça, c'est un peu la grande innovation du Bitcoin. Avant, on ne pouvait pas transférer de l'argent d'un compte à un autre sans passer par quelqu'un qui garantissait au milieu le transfert d'argent. Mmh. Là, vu que tout le monde peut regarder et que toutes les transactions sont enregistrées et ensuite impossibles à effacer, eh ben, on a cette possibilité-là de s'envoyer de l'argent en ligne sans personne pour contrôler au milieu.
Ce sont des témoins, en quelque sorte, ceux qui vérifient que la transaction a eu lieu, qui les valident d'une certaine façon ?
Alors, tout le monde est témoin et une personne valide à chaque fois ce qu'on appelle le bloc de transactions, c'est-à-dire un groupe de transactions. Là, on appelle ça la blockchain puisque c'est en fait des blocs de transactions qui sont rassemblés dans une chaîne et chaque bloc est validé. Et à chaque fois, en fait, il y a une espèce de tirage au sort qui a lieu sous certaines conditions qui fait qu'une personne va avoir la possibilité de valider le bloc.
Et on est payé pour ça si on a la chance d'être tiré au sort, voilà, et de pouvoir valider les...
Alors cette personne qui est tirée au sort va gagner 12,5 bitcoins par exemple, c'est-à-dire plus de 25 000 euros aujourd'hui.
Mais alors, donc, donc c'est un travail quoi.
Voilà, il y en a qui gagnent de l'argent comme ça. Alors ce tirage au sort est un peu spécifique en fait, il y a toute une technique qui est mise en œuvre. Pour être choisi, pour valider la transaction, il faut résoudre un problème mathématique, c'est-à-dire faire tourner son ordinateur qui va résoudre un problème et la première personne à résoudre le problème sera la personne qui va valider.
C'est comme un concours.
C'est comme un concours.
Mais d'accord. Et donc vous, par exemple, Stéphane Loignon, vous avez enquêté sur ce sujet. Vous publiez d'ailleurs Big Bang Blockchain, la seconde révolution d'Internet aux éditions Talendier. Ça veut dire que vous êtes le témoin de transactions comme ça, que vous avez gagné de l'argent comme ça ?
Alors, moi, j'ai consulté, je suis allé regarder, mais n'importe qui peut le faire, même sans Bitcoin, peut aller regarder toutes les transactions pour voir un peu comment ça marche. Personnellement, je n'ai pas validé de transaction parce qu'en fait, il faut quand même un certain matériel informatique et une certaine connaissance que moi, je n'avais pas me permettre de faire ces validations de transactions. En fait, tout le monde a la possibilité de valider, mais concrètement, dans les faits, en vrai, il y a seulement quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes qui vont participer à ce grand jeu de la validation des transactions.
Bon, alors on a mieux compris le principe et maintenant je me demande, mais qui utilise le Bitcoin ? Est-ce qu'on peut acheter du pain ou payer même des vacances avec des Bitcoins ? Réponse dans un court instant sur RTL, les curieux dépensiers.
On dépense de l'argent dans la curiosité, des bitcoins pour être précis, une crypto-monnaie qui s'échange grâce à une banque virtuelle et collective, la blockchain. Stéphane Loignon nous raconte et nous rend tout ça un peu plus clair, parce que j'avoue que moi je suis un peu perdu dans ce qui est un nouveau système qui va bien au-delà d'ailleurs des transactions financières. C'est ce qu'on va découvrir grâce à vous. Mais d'abord, un bitcoin. Bon, c'est une monnaie virtuelle, j'ai bien compris, mais ça vaut combien ? Un bitcoin, ça vaut, je sais pas, 10 euros, 20 euros, 200 euros, ça vaut combien ?
Alors, un bitcoin, aujourd'hui, ça vaut à peu près 2 200 $, donc ça fait à peu près dans les 2000 euros. Mm-hmm. Mais le cours du bitcoin évolue fortement. Alors là, il a beaucoup, beaucoup augmenté ces derniers mois, mais avec aussi des variations assez fortes. Donc, dans la journée, ça peut perdre 10%, puis en regagner 20% le lendemain. Donc, pour les gens qui investissent dessus, il faut avoir le cœur bien accroché.
C'est établi comment, la valeur ? C'est une bourse, en fait ?
C'est des plateformes d'échange qui vont vous acheter des euros ou des dollars contre du bitcoin, et puis ça va permettre de fixer une cotation en fonction de l'offre et de la demande.
Les monnaies en général, elles ont un visage, nos billets, nos pièces.
Ça nous rassure.
Voilà, ça nous rassure, ça a une image. Le bitcoin, est-ce qu'il a un symbole ou c'est juste mot ?
C'est un petit B barré qu'on voit de temps en temps. Mais bon, il n'y a pas de matérialisation évidemment physique de ce bitcoin puisque c'est entièrement virtuel, c'est la monnaie d'Internet. Donc c'est vraiment la monnaie qui permet de faire des transactions en ligne.
Mais ça paraît fou parce qu'un bitcoin c'est 2000 euros là aujourd'hui, ben, ça veut dire qu'on ne peut pas dépenser un demi bitcoin, enfin, on ne peut rien payer à moins de 2000 euros.
Alors vous inquiétez pas, en fait vous pouvez avoir n'importe quel centime de bitcoin, millicentime de bitcoin, n'importe quelle division du bitcoin est possible. Moi-même il y a quelques mois j'avais acquis des bitcoins pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et j'avais acheté 0,2 bitcoin, à l'époque ça valait 100 euros. Donc un bitcoin valait 500 euros et j'en avais acheté pour 100 euros, donc 0,2.
Qu'est-ce que vous achetez avec ? Qu'est-ce que vous avez payé, tiens, avec vos bitcoins ?
Alors, j'ai payé tout un tas de choses, parce que c'est ça qui est surprenant, mais il y a déjà pas mal de commerces à Paris, mais aussi dans une bonne vingtaine de villes de province en France, qui prennent le bitcoin. Donc, à Paris, vous pouvez aller au restaurant, il y a des pizzerias, des restaurants français, thaïlandais, qui prennent le bitcoin.
Mais vous dites quoi à la fin, quand on vous amène l'addition ?
Eh ben, vous demandez à payer en bitcoin, vous sortez votre téléphone portable, c'est vous avez une application de paiement, et puis on vous montre un QR code, vous scannez le QR code, ça envoie la somme en bitcoin au commerçant, et puis la transaction est validée, et voilà, c'est payé.
D'ailleurs, j'ai lu, alors je ne sais pas si ça concerne le bitcoin, mais qu'il y a pas mal de restaurateurs qui trouvent que le système est quand même intéressant en France, notamment pour les gens qui réservent une table et qui ne la prennent pas au dernier moment. Aux États-Unis, on donne l'empreinte de sa carte bancaire quand on réserve une table, et si on ne vient pas, on est débité. D'accord, on perd de l'argent. En France, c'est pas légal. Mais avec les bitcoins, les mauvais payeurs peuvent être retrouvés, oui ou non ?
Bah, alors je suis pas au courant de cette histoire-là, mais ce que je sais, c'est que si vous payez en bitcoin, une fois que c'est payé, vous pouvez pas annuler la transaction. Donc une fois qu'elle est faite, elle est inscrite dans cette fameuse blockchain, et comme on a dit, c'est impossible à effacer par la suite. Donc après, on peut vous renvoyer une somme équivalente si le restaurateur est d'accord, mais donc il a encaissé.
Pardon, le bitcoin, c'est vraiment le futur, enfin cette monnaie électronique virtuelle, c'est vraiment le futur de nos monnaies, c'est-à-dire que bientôt, on pourra, avec notre téléphone portable, payer même notre pain en bitcoin ?
Alors, c'est possible. Bon, faut pas forcément envisager que ça remplacera entièrement la monnaie, l'euro, le dollar, les monnaies qu'on utilise. Mais qu'il y ait des utilisations parallèles, ça, c'est possible. Et au Japon, par exemple, en avril, ils ont fait du Bitcoin un moyen de paiement légal. C'est-à-dire qu'en France aussi, c'est légal, mais ça n'a pas le statut de moyen de paiement. Et au Japon, ça a le statut de moyen de paiement.
Mais à quoi ça sert? Parce qu'on a des euros, on a nos cartes pour payer à l'étranger si on a la chance de voyager. Mais il sert à quoi? Elle sert à quoi, cette monnaie?
Voilà. Par exemple, vous partez à l'étranger, vous payez avec votre carte, vous avez des frais de transaction d'au moins 2% qui sont pris à chaque fois que vous tirez de l'argent ou que vous payez.
Oui, c'est vrai.
Si vous payez avec le Bitcoin, vous n'avez pas du tout ces frais de transaction. Où que vous payez, que ce soit à côté de chez vous ou à l'autre bout du monde, vous payez en ligne avec le Bitcoin et vous n'avez pas ces frais de transaction au milieu. Donc c'est très intéressant, notamment dans ces utilisations à l'étranger. Mmh. Beaucoup de touristes chinois, japonais utilisent ça à Paris pour payer dans des magasins quand ils le peuvent.
Mmh. Aucun frais bancaire aussi, puisqu'il n'y a pas de banque intermédiaire.
Pas de banque, pas de frais bancaires. Mmh. Alors après, pour utiliser le Bitcoin, la plupart des gens, enfin le grand public, utilisent des plateformes d'échange qui vont servir d'intermédiaire, mais qui ne prennent pas du tout des frais qui sont comparables à ceux d'une banque. Et enfin, y a des frais au moment de la conversion de la somme euro vers Bitcoin, mais après, pas à l'utilisation.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Bon, vous m'avez convaincu, Stéphane Moignon. Grâce à votre livre, Big Bang Blockchain, publié chez Talendier, je me dis, allez, je vais acheter du Bitcoin. Comment je fais? J'ouvre mon ordinateur, je tape mon code et après, voilà. Je ne sais plus quoi faire.
Alors, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire effectivement en ligne. En France, il y a différentes sociétés, par exemple Paymium, qui est assez reconnue, qui vous permet de faire assez facilement de vous créer un compte chez eux. Vous allez verser de l'argent en euros chez eux et puis après, vous allez transférer ces euros-là dans la somme qu'ils vous auront annoncée en Bitcoin. Eux vont prendre une petite commission. Mmh. Sur,
ah, quand même, parce que je me disais...
Eux, c'est comme ça qu'ils se financent. Et puis après, une fois que vous avez vos bitcoins, vous avez des applications de paiement et puis vous pouvez les utiliser n'importe où.
Ah ça y est, je suis inquiète. Je me dis, j'ai acheté des bitcoins et là, je dors plus de la nuit parce que je me dis, mais si ça se trouve, on va me les voler sur Internet, c'est pas sûr.
Et bien en fait, si vous avez. Normalement, vous pouvez poser vos bitcoins par exemple sur une clé, une sorte de clé USB qui est sécurisée. Et du coup, il n'y a aucun identifiant, aucun mot de passe qui restera sur votre ordinateur et qu'un pirate pourrait subtiliser pour avoir accès à votre compte. Donc il y a des méthodes de sécurisation qui vous permettent de mettre vos bitcoins à l'abri, après à condition que vous n'oubliez pas l'endroit où vous avez mis cette fameuse clé par exemple.
Ah oui, j'ai mis mon porte-monnaie à Bitcoin.
Ben voilà, ça arrive tout le temps. Bon, à quoi servira cette monnaie électronique dans le futur? On va essayer de se projeter et peut-être aussi de se poser la question de ses limites. À tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
On peut, par exemple, déterminer qu'une paire de chaussettes vaut 2 bitcoins.
Et des chaussettes rouges et jaunes, un petit point.
Il facilite les échanges. On peut l'utiliser pour acheter des biens et des services.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Il peut être stocké pour être utilisé dans le futur.
Marty, il faut que tu repartes avec moi.
Ça.
Mais vers le futur.
Bitcoin peut être qualifié de monnaie, au même titre que l'euro, par exemple.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue dans votre futur proche. On découvre les secrets des monnaies électroniques qui font râler votre banquier puisque les transactions se font sans lui. Eh bien oui, il n'y a plus d'intermédiaire. Et c'est Stéphane Loignon, reporter au Parisien Magazine, aujourd'hui en France, qui décrypte cette révolution pour nous. Je dis que les banquiers râlent, mais peut-être qu'ils ne râlent pas en fait.
En fait, il y a pas mal d'utilisations aussi de la blockchain dont ils pourraient se servir eux, notamment pour faire des transactions d'un pays à un autre. Et ils se saisissent de cette technologie pour inventer des moyens de survivre et de continuer à gagner pas mal d'argent.
D'ailleurs, vous nous racontez dans ce livre que vous publiez aux éditions Le Thaïlandier, Big Chain, je ne vais pas y arriver, Bing Bang Blockchain, il y a trop de mots. Oh, vous pouvez rire, il est 21h53.
Bang Blockchain, merci. La seconde révolution d'Internet chez Thaïlandier.
Et alors, cette blockchain qui permet des transactions sans intermédiaire, elle intéresse nos assureurs. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça peut nous permettre d'obtenir?
Eh bien, alors, effectivement, il y a des applications dans tout un tas de secteurs, dont l'assurance. Et des assureurs comme AXA ou Allianz travaillent beaucoup sur la blockchain, notamment pour faire ce qu'on appelle des assurances automatiques, en utilisant une des possibilités de cette technologie blockchain, qui est de faire des contrats intelligents, c'est-à-dire des contrats qui s'exécutent tout seuls.
Attendez, par exemple, je suis avec mon téléphone portable, là, tout d'un coup, je me prends un truc de folie, je vais je grimpe l'Everest, là, ouais. Demain.
Voilà.
Et donc, mon téléphone me géolocalise. Donc
vous avez besoin d'une assurance, c'est ça ?
C'est ça, et il me dit, tiens, bah, voici une assurance pour les trois jours.
Ce qui serait automatique, ce serait surtout le remboursement. Si vous avez souscrit une assurance, mettons à telle ou telle condition, là, vous êtes toujours sur le sommet de l'Everest, imaginons. Une tempête se déclenche, votre téléphone reconnaît qu'il y a un problème météorologique, et là, vous êtes couverte en cas de problème, en cas de tempête sur l'Everest. Et si vous arrive quelque chose, à ce moment-là, vous allez automatiquement recevoir la somme d'argent prévue dans telle situation. Donc, bon, là, évidemment, pour l'Everest, ça ne va pas concerner grand monde, mais il y a beaucoup d'autres possibilités, notamment sur les retards d'avion. Par exemple, votre avion a 5 heures de retard, un logiciel analyse tout de suite, voit que l'avion est arrivé 5 heures plus tard par rapport à ce qui était prévu, et vous êtes remboursé automatiquement avec une assurance automatique.
Sans avoir besoin de remplir un dossier, d'envoyer toutes les pièces,
voilà,
etc.
Vous l'avez rempli au moment de souscrire, et puis après, la gestion du sinistre est automatisée.
Et alors, pour ceux qui nous ont rejoints il y a quelques minutes, ou qui, comme moi, ont déjà un peu oublié la définition de la blockchain, qui était pourtant très très claire tout à l'heure, Stéphane Moignon, c'est quoi les... En quoi ça permet de faire ça, technologiquement, en fait?
Parce que la blockchain, donc un des trois usages, c'est de pouvoir héberger ces contrats intelligents qui vont en fait être des petits logiciels qui vont vous dire on vous verse telle somme d'argent si telle et telle condition sont réunies. Mmh. Donc, du coup, un peu dans toute l'économie numérique, on va pouvoir automatiser des transactions.
C'est comme si un notaire avait validé le contrat, en quelque sorte, parce qu'on le date et on sait qu'il a été signé. Est-ce que c'est ça ?
Alors ça, c'est un des autres usages. C'est on peut inscrire dans cette blockchain qui est ineffaçable une information en commentaire de la transaction, disons. Oui. Et du coup, on va pouvoir avoir la trace d'un document. Mais ça peut être un titre de propriété, ça peut être un diplôme. Et on va être sûr que ce document unique va avoir cette trace unique inscrite à jamais dans la blockchain.
Ça veut dire que, par exemple, bientôt, des employeurs vont pouvoir vérifier le CV et la véracité des diplômes de leurs futurs employés ?
Et alors, c'est même pas forcément bientôt, c'est déjà aujourd'hui, puisque l'école Léonard de Vinci, par exemple, fait ça, met ses diplômes, une partie de ses diplômes sur la blockchain. Une autre école fondée par des Français dans la Silicon Valley qui s'appelle Holberton School a aussi lancé ce système de diplômes inscrits dans la blockchain. Et donc déjà, les employeurs peuvent vérifier avec le diplôme envoyé que c'est bien le diplôme qui a été validé par l'école en question.
Quand on en parle de cette blockchain, cette technologie-là qui permet de retenir, de capter de l'information et de la sécuriser, vous dites régulièrement que ça ne craint rien, c'est inviolable, c'est indestructible. Mais qu'est-ce qui permet de le dire ?
Alors en fait, il y a donc des centaines de blockchains. Elles ne sont pas toutes aussi sécurisées, mais le Bitcoin a prouvé dans son histoire qu'il était très sécurisé. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, de réussir à falsifier une transaction sur la blockchain Bitcoin.
Donc cette monnaie virtuelle, mais il y aura forcément des hackers à un moment qui, dès qu'il y a de l'argent un petit peu comme ça, voilà, et dès que le magot grossit.
C'est arrivé, mais pas qu'on pirate la blockchain elle-même, c'est-à-dire on n'a jamais inscrit de fausses transactions. En revanche, ce qui est arrivé, c'est que des plateformes qui achetaient, revendaient du Bitcoin se fassent pirater. Mais ça, c'est parce que ces plateformes étaient mal protégées, c'est pas la blockchain Bitcoin qui a eu un problème.
Mmh. C'est arrivé à une plateforme japonaise, c'est ça ?
Voilà, qui s'appelle MTGOX et qui s'est fait dérober, je crois que c'était dans les 800 000 Bitcoin en 2014. Cet été, c'est arrivé à une autre plateforme qui s'appelle Bitfinex. Donc ça, c'est des plateformes en fait, qui se sont fait dérober tous leurs numéros de compte et mots de passe. Mais du coup, c'est l'accès à ces numéros de compte et mots de passe qui a été piraté et qui a permis aux pirates d'aller sur la blockchain. Ouais.
Alors, du coup, j'hésite un peu. Là. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'y vais, j'ouvre mon ordinateur et je m'achète des bitcoins. Mais où est-ce qu'il faut aller ? C'est quoi les meilleurs sites pour que ce soit
en France,
sécurisé, sérieux, etc.
En France, la plupart des gens commencent en allant soit chez Paymium, soit à la maison du bitcoin, qui en plus a l'avantage d'avoir un comptoir physique. Donc ça, c'est dans le quartier du Sentier à Paris. Vous y allez, vous pouvez déposer de l'argent en liquide. Ils vont vous créer un compte. Il faut montrer quand même une pièce d'identité parce qu'ils respectent un certain nombre de réglementations financières. Et vous allez avoir un ticket avec un numéro de compte et vos bitcoins.
Moi, j'aime bien les fascicules, les petits index. Est-ce que je peux trouver quelque part un fascicule qui me dit où je peux payer avec mes bitcoins pour être vraiment pour pas aller dans un resto et qu'on me dise ah bah non, madame.
Alors mieux qu'un fascicule, un site internet qui s'appelle CoinMap.
Ah bah dans ce cas, je prends.
Trop moderne pour nous.
Et sur le site internet CoinMap, vous pouvez voir partout dans le monde et notamment en France à Paris, parce que vous pouvez zoomer n'importe où, les différents commerces qui prennent le bitcoin.
Donc on a bien compris, c'est un système qui se passe d'intermédiaire. Le plus important, voilà. Si on doit retenir une info à propos de cette blockchain, c'est ça.
C'est exactement ça. Grâce à ce système, on peut faire des paiements numériques sans intermédiaire. Du coup, on peut réinventer un peu toute l'économie d'aujourd'hui qui passe par les intermédiaires, qui passe par les banques, les compagnies d'énergie, les géants du disque, etc. En faisant des transactions directement entre le producteur et le consommateur sans passer par ces gens-là.
C'est pour ça que vous appelez ça, Stéphane Loignon, la seconde révolution d'Internet, Big Bang Blockchain. C'est votre livre qui est paru aux éditions du Thaïlandais. On vous dit à jeudi pour de nouvelles aventures pour le Parisien Magazine aujourd'hui en France.
On parlera du mur entre le Texas, les États-Unis et le Mexique. C'est donc la fin de cette curiosité. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur rtl.fr.
On se retrouve demain avec les nouveaux fous de l'histoire. Une globe croqueuse et rien à voir, les coulisses de l'Assemblée nationale. Très belle fin de soirée.